jusqu'aux années à peu près, jusqu'à peu près 1970, on a eu des évolutions extraordinaires. On est passé de 7 à 6 à 5 jours de travail, on est passé de 12 à 8 heures de travail, on a injecté 5 semaines de vacances, on est passé d'une semaine de 84 heures à peu près à une semaine de 40 heures. Et donc on a diminué effectivement en 70 ans le travail par deux, le temps de travail par deux, alors qu'en somme, la productivité augmentait pendant ces périodes. Elle augmentait certes, mais elle augmentait relativement peu. Et depuis 1970, depuis qu'on a des bonds de géants qui ont été faits en termes de productivité, qu'est-ce qu'on a fait? On est passé de 40 à 38. Et donc il y a eu effectivement un stop, et ce stop, encore faut-il le nuancer, parce que je vous signale que des chercheurs britanniques estiment qu'avec le smartphone que M. Coleman exhibait tout à l'heure, à raison en disant que c'était un terrible concentré de technologie et d'informatique, les chercheurs britanniques ont calculé qu'avec les smartphones, ceux précisément dont je vous disais tout à l'heure qu'ils faisaient partie de la catégorie de ceux qui bossent plein pot, eh bien, ils travaillent en moyenne 460 heures de plus par an non rémunérées. Donc, on n'a pas simplement arrêté de diminuer le temps de travail, mais on l'a singulièrement augmenté, le temps de travail, parce que 460 heures par an, pour un temps de travail qui tourne aujourd'hui autour de 1700 heures, vous voyez un peu la proportion de l'augmentation du temps de travail. Alors ça, c'est une première chose. Deuxième chose, déjà largement évoquée et avec quel talent ce matin, c'est évidemment ce qu'on appelle la révolution numérique. La révolution numérique, ça pose beaucoup de questions. Ça pose des questions éthiques, bien entendu, d'abord, puisque c'est quand même toute la question d'être pisté 24 heures sur 24, avec les questions que ça pose en termes de droit à la vie privée. Chaque fois que je parle de révolution numérique, je rappelle que dans 10 ans, il n'y aura plus en Belgique 6 ou 7 chaînes de télévision francophones. Il y en aura des millions, parce que vous aurez tous votre propre chaîne. Yannick, ici, assis devant moi, se sera arrêté un matin devant le concessionnaire Renault. Eh bien, le soir, avant le JT, il aura une pub Renault. Mais Olivia se sera arrêté, je ne sais pas où, moi.
Chez L'Oréal.
Dans les clichés. J'ai été à Mons.
On s'est compris. Mais à côté de ces questions éthiques, il y a aussi des questions sociales que pose la révolution numérique. Et très rapidement, je voudrais en lister 5, qui sont vraiment, me semble-t-il, les questions que nous devons travailler aujourd'hui. D'abord, la révolution numérique crée une société de la performance. Un contrat de travail classique, ce n'est pas une obligation de résultat, hein. C'est une obligation de moyens. Et là, effectivement, on est en train de passer à des obligations de résultat et on trouve assez incroyable qu'on n'ait pas répondu à un mail qui est arrivé à 22h45 à la minute. Bon, société de la performance. Deux, on est aussi dans le thème du débat. La révolution numérique nous oblige à repenser les modes de financement de la sécurité sociale, mais aussi les chemins de la justice fiscale. Les deux, à mon sens. Trois, je pense qu'elle rend illusoire les espoirs d'une résorption du chômage qui serait fondée exclusivement sur une reprise de la croissance. Ça aussi, je pense que c'est un acquis de ce qui a été dit tout à l'heure. Quatre, cette révolution numérique, elle raréfie le travail. Alors on a deux thèses. On a la thèse de Bill Gates et la thèse d'Esteban. La thèse de Bill Gates, c'est qu'au cours des 20 années à venir, le software reprendra à son compte la moitié des emplois. Et la thèse d'Esteban, et ça fait quand même plaisir de l'entendre aussi, si elle raréfie le travail, elle va aussi le modifier substantiellement. Et tout espoir n'est pas perdu. Mais de cette université bruxelloise dont on parlait Eddy tout à l'heure, il vient quand même encore des nouvelles intéressantes, bien entendu. Bref, dans tous les pays occidentaux, où il y en a fini, comme on dit par ici, on produit désormais plus avec beaucoup moins de travail. Deux chiffres, hein, entre 1820 et 1960, donc pendant 140 ans, productivité multipliée par 2, entre 1960 et 2012, pendant 50 ans, productivité multipliée par 5, en manière telle que la révolution industrielle du 19e siècle, où l'invention du travail à la chaîne du début du 20e, ont généré des gains de productivité presque ridicules. Et puis, cinquième conséquence de cette révolution numérique, elle fait disparaître les emplois peu qualifiés. Et là, notre région, elle est vraiment dans cette phase-là, où on constate que les emplois peu qualifiés sont progressivement en train de disparaître. Alors, au bout du compte, si on intègre tous ces gains de productivité colossaux réalisés dans toutes ces économies depuis 40 ans, à titre personnel, la question que je me pose, c'est évidemment pas, faut-il être pour ou contre la réduction du temps de travail, mais la question que l'on doit se poser, c'est quelle réduction du temps de travail voulons-nous? Et là, on a deux modèles. Esteban en a parlé tout à l'heure aussi. Premier modèle, c'est évidemment se dire, on va pratiquer une réduction collective individuelle du temps de travail. C'est-à-dire, on va faire du temps partiel, Mais il y a d'autres systèmes qui sont à l'œuvre, le crédit de temps, la prévention, tout ça, c'est des modèles, certes intéressants, pour lesquels il est même arrivé que mon organisation se batte, mais ce sont des modèles qui sont des modèles de réduction individuelle du temps de travail et qui ne préservent évidemment pas, la rémunération des personnes qui y ont recours. Et puis l'autre modèle, c'est un modèle, je trouve vraiment intéressant ce qu'a dit Esteban Martinez sur le lieu de négociation de la réduction collective du travail. Moi, je suis plutôt dans un modèle, mais vous allez voir comme c'est facile aujourd'hui, où on prend au plan fédéral une loi cadre, et puis on décline sectoriellement pour être au plus près du terrain. Je pense que cela ne... Il y a un chemin possible qui est un chemin win-win. C'est un peu le chemin que les économistes, notamment de l'OCDE, appellent le chemin de la high road, donc le chemin par le haut, qui pourrait faire l'objet d'une grande négociation sociale en Belgique comme en Europe. Mais je ne suis pas sûr que les temps soient mûrs aujourd'hui dans plein de pays d'Europe. Je pense que nos amis de Hongrie, de Pologne... jusqu'il y a peu d'Espagne et en Belgique c'est pas simple non plus, ne sont pas prêts d'avoir des réponses de leurs gouvernements nationaux qui aillent dans le sens de cette réduction collective du temps de travail. Alors, deux ou trois petites remarques encore, si ce n'est pas trop long. Alors, première remarque, Esteban disait tout à l'heure, n'oublions tout de même pas les choix politiques. Ne faisons pas comme si le politique n'existait pas. C'est vrai, j'ai eu le privilège d'assister cette semaine à la leçon inaugurale de la chaire BSI CITIDEF. Et il y avait là un conférencier français extrêmement intéressant qui s'appelle Patrick Le Gallès, qui est un sociologue et un urbaniste. Et il posait à un moment donné une question, il disait « Qui gouverne dans nos villes? Qui gouverne lorsque personne ne gouverne ?» Et donc effectivement, je pense qu'il y a un combat aujourd'hui à mener pour que les gouvernements soient en mesure de gouverner. Parce que ça n'est plus du tout évident. Et on parlait tantôt de grands groupes, il y a un certain nombre de grands groupes qui, au fond, les décisions d'un gouvernement, vous savez, c'est de l'ordre, pardon, parce que... expression a été rendue célèbre par quelqu'un que je déteste, mais c'est de l'ordre du détail, quoi. Ce que peuvent décider les gouvernements. Donc là, il y a certainement un combat à mener. Sur la meilleure soutenabilité des conditions de travail, je pense qu'il est important... Moi, j'ai apprécié le fait que, dans le titre du colloque, et merci d'y avoir été attentif, c'est le mot « de qualité ». Parce que pendant bien des années... les pouvoirs publics, mais de manière générale, la société, elle était obnubilée par la création d'emplois. Mais l'emploi de qualité, ça c'était encore une fois un détail. Et j'ai été frappé de la possibilité, lorsqu'on a négocié le contrat de gestion d'Actiris, et on a l'actuel directeur d'Actiris dans la salle, le précédent directeur d'Actiris dans la salle, de pouvoir, dans cet accord avec le gouvernement régional, parler d'emploi de qualité, ce qui pour nous était extrêmement intéressant. Et puis effectivement, la question du financement, Fadila, avec son collègue du gouvernement régional, Gauvoin est en train de commanditer une étude sur un cas type, pourrait-on dire, à savoir effectivement Bruxelles-Propreté. Pourquoi Bruxelles-Propreté? Mais j'imagine qu'il y a là précisément un endroit relativement homogène en termes de niveau de qualification, comme disait Eddy. Et évidemment, on n'a pas une étude. Fabila ne peut pas encore nous dire à ce stade-ci, sauf si elle nous fait un scoop terrible dans une demi-heure, qu'on va passer tout de suite aux 30 heures à Bruxelles-Propreté. Mais cette étude est importante et effectivement, la barque est chargée parce que c'est un passage, si vous avez bien compris les termes de l'étude qui a été demandée, c'est un passage vers 30 heures. Vers 7h30 pardon, par jour, avec. Un maintien de la rémunération, et pas seulement du revenu, comme c'est la différence, hein, un maintien de la rémunération, avec aussi une volonté très claire de ne pas toucher à la rentabilité de l'entreprise, et donc ça veut dire un financement par la collectivité, avec un coût qui, se dit-on, pourrait être compensé par des gains par ailleurs, mais je pense que ce type de dispositif, malgré la sixième réforme de l'État, il ne va pas être possible, en tout cas, de le généraliser ou de le rendre beaucoup plus utilisé sans que le gouvernement fédéral intervienne, parce que jusqu'à présent, et au fond c'est une bonne chose, lorsque une personne retrouve du boulot, c'est une économie pour le budget fédéral de l'emploi et pas pour le budget de la région bruxelloise. Donc, je confirme, Esteban est satisfait que ça vienne à l'agenda. On peut pas vraiment dire que ça ait quitté l'agenda de la FGTB. Mais c'est vrai qu'on parle un peu moins dans le vide maintenant. Et donc, c'est certainement une bonne chose. Je confirme que nous, en tout cas, on est sur cette piste-là. Et donc, le colloque d'aujourd'hui est un vrai plaisir. Merci beaucoup de l'avoir organisé.